Chères auditrices et auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Pour cette première émission de décembre 2009, nous retrouverons avec grand plaisir notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. Nous terminerons cette émission par l'agenda des activités programmées en Belgique pour le mois en cours. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. C'est donc avec plaisir que nous cédons la parole à notre sœur Gisèle pour la suite du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 7, traitant de l'esquisse géologique de la Terre, du point numéro 1, période géologique, au point numéro 7.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 7, esquisse géologique de la Terre. Période géologique. Point 1. La Terre porte en elle les traces évidentes de sa formation. On en suit les phases avec une précision mathématique dans les différents terrains qui composent sa charpente. L'ensemble de ces études constitue la science appelée géologie, science née de ce siècle et qui a jeté la lumière sur la question si controversée de son origine et de celle des êtres vivants qui l'habitent. Ici, il n'y a point d'hypothèse, c'est le résultat rigoureux de l'observation des faits. Et en présence des faits, le doute n'est point permis. L'histoire de la formation du globe est écrite dans les couches géologiques d'une manière bien autrement certaine que dans les livres préconçus, parce que c'est la nature elle-même qui parle, qui se montre à découvert, et non l'imagination des hommes qui créent des systèmes. Où l'on voit les traces du feu, on peut dire avec certitude que le feu a existé. Où l'on voit celle de l'eau, on dit avec non moins de certitude que l'eau a séjourné. Où l'on voit celle des animaux, on dit que les animaux ont vécu. La géologie est donc une science toute d'observation. Elle ne tire de conséquences que de ce qu'elle voit. Sur les points douteux, elle n'affirme rien. Elle n'émet que des opinions discutables dont la solution définitive attend des observations plus complètes. Sans les découvertes de la géologie, comme sans celles de l'astronomie, la genèse du monde serait encore dans les ténèbres de la légende. Grâce à elle, aujourd'hui l'homme connaît l'histoire de son habitation et l'échafaudage des fables qui entourent son berceau s'est écroulé pour ne plus se relever. Point 2. Partout où existent, dans les terrains, des tranchées, des excavations naturelles ou pratiquées par les hommes, on remarque ce qu'on appelle des stratifications, c'est-à-dire des couches superposées. Les terrains qui présentent ces dispositions sont désignés sous le nom de terrains stratifiés. Ces couches, d'une épaisseur très variable, depuis quelques centimètres jusqu'à 100 mètres et plus, se distinguent entre elles par la couleur et la nature des substances dont elles se composent. Les travaux d'art, le percement des puits, l'exploitation des carrières et surtout des mines ont permis de les observer jusqu'à une assez grande profondeur. Point 3. Les couches sont généralement homogènes, c'est-à-dire que chacune est formée d'une même substance ou de diverses substances qui ont existé ensemble et ont formé un tout compact. La ligne de séparation qui les isole les unes des autres est toujours nettement tranchée, comme dans les assises d'un bâtiment. Nulle part on ne les voit se mêler et se perdre l'une dans l'autre à l'endroit de leurs limites respectives, comme cela a lieu, par exemple, dans les couleurs du prisme et de l'arc-en-ciel. À ces caractères, on reconnaît qu'elles ont été formées successivement, déposées l'une sur l'autre dans des conditions et par des causes différentes. Les plus profondes ont naturellement été formées les premières, et les plus superficielles postérieurement. La dernière de toutes, celle qui se trouve à la surface, est la couche de terre végétale qui doit ses propriétés aux détritus des matières organiques provenant des plantes et des animaux. Point 4. Les couches inférieures, placées au-dessous de la couche végétale, ont reçu en géologie le nom de roche, mot qui, dans cette acception, n'implique pas toujours l'idée d'une substance pierreuse, mais signifie un lit ou banc d'une substance minérale quelconque. Les unes sont formées de sable, d'argile ou de terre glaise, de marne, de cailloux roulés. D'autres, de pierres proprement dites, plus ou moins dures, telles que les grès, les marbres, la craie, les calcaires ou pierres à chaux, les pierres meulières, les charbons de terre, les asphaltes, etc. On dit qu'une roche est plus ou moins puissante, selon que son épaisseur est plus ou moins considérable. Par l'inspection de la nature de ces roches ou couches, on reconnaît à des signes certains que les unes proviennent de matières fondues et parfois vitrifiées par l'action du feu, d'autres de substances terreuses déposées par les eaux. Quelques-unes de ces substances sont restées désagrégées, comme les sables. Les autres, d'abord à l'état pâteux, sous l'action de certains agents chimiques ou autres causes, se sont durcies et ont acquis à la longue la consistance de la pierre. Les bancs de pierre superposés annoncent des dépôts successifs. Le feu et l'eau ont donc eu leur part d'action dans la formation des matériaux qui composent la charpente solide du globe. Point 5. La position normale des couches terreuses ou pierreuses provenant de dépôts aqueux est la direction horizontale. Lorsqu'on voit ces immenses plaines qui s'étendent parfois à perte de vue, d'une horizontalité parfaite, unies comme si on les avait nivelées au rouleau, ou ces fonds de vallées aussi planes que la surface de lac, on peut être certain qu'à une époque plus ou moins reculée, ces lieux ont été longtemps couverts par des eaux tranquilles, qui, en se retirant, ont laissé à sec les terres qu'elles avaient déposées pendant leur séjour. Après la retraite des eaux, ces terres se sont couvertes de végétation. Si au lieu de terre grasse, limoneuse, argileuse ou marneuse, propre à s'assimiler les principes nutritifs, les eaux n'ont déposé que des sables siliceux. Sans agrégation, on a ces plaines sablonneuses et arides qui constituent les landes et les déserts. Les dépôts que laissent les inondations partielles et ceux qui forment les atterrissements à l'embouchure des rivières peuvent en donner une idée en petit. Point 6. Bien que l'horizontalité soit la position normale et la plus générale des formations aqueuses, on voit souvent, sur d'assez grandes étendues, dans les pays de montagne, des roches dures que leur nature indique avoir été formées par les eaux, être dans une position inclinée et parfois même verticale. Or, comme, d'après les lois de l'équilibre des liquides et de la pesanteur, les dépôts aqueux ne peuvent se former qu'en plans horizontaux, attendu que ceux qui ont lieu sur des plans inclinés sont entraînés dans les bas-fonds par les courants et leur propre poids. Il demeure évident que ces dépôts ont dû être soulevés par une force quelconque, après leur solidification ou transformation en pierre. De ces considérations, on peut conclure avec certitude que toutes les couches pierreuses provenant de dépôts aqueux dans une position parfaitement horizontale ont été formées à la suite des siècles par des eaux tranquilles et que toutes les fois qu'elles ont une position inclinée, c'est que le sol a été tourmenté et disloqué postérieurement par des bouleversements généraux ou partiels plus ou moins considérables. Point 7. Un fait caractéristique de la plus haute importance, par le témoignage irrécusable qu'il fournit, consiste dans les débris fossiles d'animaux et de végétaux que l'on rencontre en quantité innombrable dans les différentes couches. Et comme ces débris se trouvent même dans les pierres les plus dures, il en faut conclure que l'existence de ces êtres est antérieure à la formation de ces mêmes pierres. Or, si l'on considère le nombre prodigieux de siècles qu'il a fallu pour en opérer le durcissement et les amener à l'état où elles sont de temps immémorial, on arrive à cette conséquence forcée que l'apparition des êtres organiques sur la Terre se perd dans la nuit des temps, et qu'elle est bien antérieure par conséquent à la date assignée par la Genèse. Remarque, fossile du latin fossilia, fossilis, dérivé de fossa, fosse, et de fodere, fuir, creuser la terre. Ce mot se dit, en géologie, des corps ou débris de corps organisés, provenant d'êtres qui vivaient antérieurement au temps historique. Par extension, il se dit également des substances minérales portant les traces de la présence d'êtres organisés, tels que les empreintes de végétaux ou d'animaux. Le mot « pétrification » ne se dit que des corps transformés en pierre par l'infiltration de matières siliceuses ou calcaires dans les tissus organiques. Toutes les pétrifications sont nécessairement des fossiles, mais tous les fossiles ne sont pas des pétrifications. Les objets qui se revêtent d'une couche pierreuse lorsqu'ils sont plongés dans certaines eaux chargées de substances calcaires, comme celle du ruisseau de Saint-Alyre, près de Clermont, en Auvergne, ne sont pas des pétrifications proprement dites, mais de simples incrustations. Les monuments, inscriptions et objets provenant de fabrications humaines appartiennent à l'archéologie. Fin de la remarque.
Poursuivons notre lecture du jour par le 7e chapitre de la Genèse, traitant de la suite de l'esquisse généalogique de la terre des points numéro 8 à 18.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 7, esquisse géologique de la terre, point 8. Parmi ces débris de végétaux et d'animaux, il en est qui ont été pénétrés dans toutes les parties de leur substance, sans que leur forme en ait été altérée, de matières siliceuses ou calcaires qui les ont transformées en pierre, dont quelques-unes ont la dureté du marbre. Ce sont les pétrifications proprement dites. D'autres ont été simplement enveloppées par la matière à l'état de mollesse. On les trouve intactes et quelques-uns dans leur entier, dans les pierres les plus dures. D'autres, enfin, n'ont laissé que des empreintes, mais d'une netteté et d'une délicatesse parfaites. Dans l'intérieur de certaines pierres, on a trouvé jusqu'à l'empreinte des pas, et à la forme du pied, des doigts et des ongles, on a reconnu de quelle espèce d'animal il provenait. Point 9. Les fossiles d'animaux ne comprennent guère, on le conçoit, que les parties solides et résistantes, c'est-à-dire les ossements, les écailles et les cornes. Quelquefois, ce sont des squelettes complets. Le plus souvent, ce n'en sont que des parties détachées, mais dont il est facile de reconnaître la provenance. À l'inspection d'une mâchoire, d'une dent, on voit de suite si elle appartient à un animal herbivore ou carnassier. Comme toutes les parties de l'animal ont une corrélation nécessaire, la forme de la tête, d'une omoplate, d'un os de jambe, d'un pied, suffit pour déterminer la taille, la forme générale, le genre de vie de l'animal. Remarque. Au point où Georges Cuvier apportait la science paléontologique, un seul os suffit, souvent, pour déterminer le genre, l'espèce, la forme d'un animal, ses habitudes, et pour le reconstruire tout entier. Fait de la remarque. Les animaux terrestres ont une organisation qui ne permet pas de les confondre avec les animaux aquatiques. Les poissons et les coquillages fossiles sont excessivement nombreux. Les coquillages seuls forment quelquefois des bancs entiers d'une grande épaisseur. À leur nature, on reconnaît sans peine si ce sont des animaux marins ou d'eau douce. Point 10. Les cailloux roulés, qui dans certains endroits constituent des roches puissantes, sont un indice non équivoque de leur origine. Ils sont arrondis comme les galets du bord de la mer, signe certain du frottement qu'ils ont subi par l'effet des eaux. Les contrées où on les trouve enfouis en masse considérable ont incontestablement été occupées par l'océan ou par des eaux longtemps ou violemment agitées. Point 11. Les terrains des diverses formations sont, en outre, caractérisés par la nature même des fossiles qu'ils renferment. Les plus anciens contiennent des espèces animales ou végétales qui ont entièrement disparu de la surface du globe. Certaines espèces plus récentes ont également disparu, mais ont conservé leur analogue qui ne diffère de leur souche que par la taille et quelques nuances de forme. D'autres, enfin, dont nous voyons les derniers représentants, tendent évidemment à disparaître dans un avenir plus ou moins prochain, tels que les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, etc. Ainsi, à mesure que les couches terrestres se rapprochent de notre époque, les espèces animales et végétales se rapprochent aussi de celles qui existent aujourd'hui. Les perturbations, les cataclysmes qui ont lieu sur la Terre depuis son origine en ont donc changé les conditions d'aptitude à l'entretien de la vie et ont fait disparaître des générations entières d'êtres vivants. Point 12. En interrogeant la nature des couches géologiques, on sait de la manière la plus positive si, à l'époque de leur formation, la contrée qui les renferme était occupée par la mer, par des lacs ou par des forêts et des plaines peuplées d'animaux terrestres. Si donc, dans une même contrée, on trouve une série de couches superposées, contenant alternativement des fossiles marins, terrestres et d'eau douce, plusieurs fois répétées, c'est une preuve irrécusable que cette même contrée a été plusieurs fois envahie par la mer, couverte de lacs et mise à sec. Et combien de siècles certainement, de milliers de siècles peut-être, a-t-il fallu à chaque période pour s'accomplir? Quelle force puissante n'a-t-il pas fallu pour déplacer et replacer l'océan, soulever les montagnes? Par combien de révolutions physiques, de commotions violentes, la Terre n'a-t-elle pas dû passer avant d'être ce que nous la voyons depuis les temps historiques? Et l'on voudrait que ce fût l'œuvre de moins de temps qu'il n'en faut pour faire pousser une plante? Point 13. L'étude des couches géologiques atteste, ainsi que cela a été dit, des formations successives qui ont changé l'aspect du globe et divisent son histoire en plusieurs époques. Ces époques constituent ce qu'on appelle les périodes géologiques, dont la connaissance est essentielle pour l'établissement de la genèse. On en compte six principales que l'on désigne sous les noms de périodes primaires, de transition, secondaires, tertiaires, diluviennes, post-diluviennes ou actuelles. Les terrains formés pendant la durée de chaque période s'appellent aussi terrains primitifs, de transition, secondaires, etc. On dit ainsi que telle ou telle couche ou roche, tel ou tel fossile, se trouve dans les terrains de telle ou telle période. Point 14. Il est essentiel de remarquer que le nombre de ces périodes n'est point absolu et qu'il dépend des systèmes de classification. On ne comprend, dans les six principales désignées ci-dessus, que celles qui sont marquées par un changement notable et général dans l'état du globe. Mais l'observation prouve que plusieurs formations successives se sont opérées pendant la durée de chacune. C'est pourquoi on les divise en sous-périodes caractérisées par la nature des terrains et qui portent à 26 le nombre des formations générales bien caractérisées, sans compter celles qui proviennent de modifications dues à des causes purement locales. État primitif du globe. Point 15. L'aplatissement des pôles et d'autres faits concluants sont des indices certains que la Terre a dû être, à son origine, dans un état de fluidité ou de mollesse. Cet état pouvait avoir pour cause la matière liquéfiée par le feu ou détrempée par l'eau. On dit, proverbialement, « il n'y a pas de fumée sans feu ». Cette proposition, rigoureusement vraie, est une application du principe « il n'y a pas d'effet sans cause ». Par la même raison, on peut dire « il n'y a pas de feu sans foyer ». Or, par l'effet qui se passe sous nos yeux, ce n'est pas seulement de la fumée qui se produit. C'est du feu bien réel qui doit avoir un foyer. Ce feu venant de l'intérieur de la terre et non d'en haut. Le foyer doit être intérieur. Le feu étant permanent, le foyer doit l'être également. La chaleur qui augmente à mesure que l'on pénètre dans l'intérieur de la terre et qui, à une certaine distance de la surface, atteint une très haute température. Les sources thermales, d'autant plus chaudes qu'elles viennent d'une plus grande profondeur. Les feux et les masses de matière fondue et embrasée qui s'échappent des volcans, comme par de vastes soupiraux ou par les crevasses produites dans certains tremblements de terre, ne peuvent laisser de doute sur l'existence d'un feu intérieur. Point 16. L'expérience démontre que la température s'élève de 1 degré par 30 mètres de profondeur. D'où il suit qu'à une profondeur de 300 mètres, l'augmentation est de 10 degrés. À 3000 mètres, de 100 degrés, température de l'eau bouillante. À 30 000 mètres, ou 7 à 8 lieues, de 1000 degrés. À 25 lieues, de plus de 3300 degrés, température à laquelle aucune matière connue ne résiste à la fusion. De là jusqu'au centre, il y a encore un espace de plus de 1400 lieues, soit 2800 lieues en diamètre, qui seraient occupées par des matières fondues. Bien que ce ne soit là qu'une conjecture, en jugeant de la cause par l'effet, elle a tous les caractères de la probabilité, et l'on arrive à cette conclusion, que la Terre est encore une masse incandescente, recouverte d'une croûte solide de 25 lieues ou plus d'épaisseur, ce qui est à peine la 120e partie de son diamètre. Proportionnellement, ce serait beaucoup moins que l'épaisseur de la plus mince écorce d'orange. Au reste, l'épaisseur de la croûte terrestre est très variable, car il est des contrées, surtout dans les terrains volcaniques, où la chaleur et la flexibilité du sol indiquent qu'elle est très peu considérable. La haute température des eaux thermales est également l'indice du voisinage du feu central. Point 17. D'après cela, il demeure évident que l'état primitif de fluidité ou de mollesse de la Terre doit avoir eu pour cause l'action de la chaleur, et non celle de l'eau. La Terre était donc, à son origine, une masse incandescente. Par suite du rayonnement du calorique, il est arrivé ce qui arrive à toute matière en fusion. Elle s'est peu à peu refroidie et le refroidissement a naturellement commencé par la surface qui s'est durcie, tandis que l'intérieur est resté fluide. On peut ainsi comparer la Terre à un bloc de charbon sortant tout rouge de la fournaise et dont la surface s'éteint et se refroidit au contact de l'air, alors que, si on le brise, on trouve l'intérieur encore embrasé. Point 18. À l'époque où le globe terrestre était une masse incandescente, il ne contenait pas un atome de plus ni de moins qu'aujourd'hui. Seulement, sous l'influence de cette haute température, la plupart des substances qui le composent et que nous voyons sous la forme de liquide ou de solide, de terre, de pierre, de métaux et de cristaux, se trouvaient dans un état bien différent. Elles n'ont fait que subir une transformation. Par suite du refroidissement et des mélanges, les éléments ont formé de nouvelles combinaisons. L'air, considérablement dilaté, devait s'étendre à une distance immense. Toute l'eau, forcément réduite en vapeur, était mêlée à l'air. Toutes les matières susceptibles de se volatiliser, telles que les métaux, le soufre, le carbone, s'y trouvaient à l'état de gaz. L'état de l'atmosphère n'avait donc rien de comparable à ce qu'il est aujourd'hui. La densité de toutes ces vapeurs lui donnait une opacité que ne pouvait traverser aucun rayon du soleil. Si un être vivant eût pu exister à la surface du globe à cette époque, il n'eût été éclairé que par l'éclat sinistre de la fournaise placée sous ses pieds et de l'atmosphère embrasée et n'aurait même pas soupçonné l'existence du soleil.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre le chapitre 7 traitant de l'esquisse géologique de la Terre et plus particulièrement de la période primaire, des points 19 à 27.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 7, esquisse géologique de la Terre. Période primaire, point 19. Le premier effet du refroidissement fut de solidifier la surface extérieure de la masse en fusion et d'y former une croûte résistante qui, mince d'abord, s'épaissit peu à peu. Cette croûte constitue la pierre appelée granit, d'une extrême dureté, ainsi nommée de son aspect granulé. On y distingue trois substances principales, le feldspath, le quartz ou cristal de roche et le mica. Cette dernière a le brillant métallique, quoique ce ne soit pas un métal. La couche granitique est donc la première qui se soit formée sur le globe. qu'elle enveloppe dans son entier et dont elle constitue en quelque sorte la charpente osseuse. Elle est le produit direct de la matière en fusion consolidée. C'est sur elle et dans les cavités que présentait sa surface tourmentée que se sont successivement déposées les couches des autres terrains formés postérieurement. Ce qui la distingue de ces derniers, c'est l'absence de toute stratification, c'est-à-dire qu'elle forme une masse compacte et uniforme dans toute son épaisseur et non disposée par couches. L'effervescence de la matière incandescente devait y produire de nombreuses et profondes crevasses par lesquelles s'épanchait cette matière. Point 20. Le second effet du refroidissement fut de liquéfier quelques-unes des matières contenues dans l'air à l'état de vapeur et qui se précipitèrent à la surface du sol. Il y eut alors des pluies et des lacs de soufre et de bitume, de véritables ruisseaux de fer, de cuivre, de plomb et autres métaux fondus. Ces matières, s'infiltrant dans les fissures, ont constitué les veines et filons métalliques. Sous l'influence de ces divers agents, la surface granitique éprouva des décompositions alternatives. Il se fit des mélanges qui formèrent les terrains primitifs proprement dits, distincts de la roche granitique, mais en masse confuse et sans stratification régulière. Vinrent ensuite les eaux qui, tombant sur un sol brûlant, se vaporisaient de nouveau, retombaient en pluie torrentielle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la température leur permît de rester sur le sol à l'état liquide. C'est à la formation des terrains granitiques que commence la série des périodes géologiques auxquelles il conviendrait d'ajouter celle de l'état primitif d'incandescence du globe. Point 21. Tel fut l'aspect de cette première période. Véritable chaos de tous les éléments confondus, cherchant leur assiette où nul être vivant ne pouvait exister. Aussi, un de ses caractères distinctifs en géologie, c'est l'absence de toute trace de vie végétale et animale. Il est impossible d'assigner une durée déterminée à cette première période, pas plus qu'aux suivantes. Mais, d'après le temps qu'il faut à un boulet d'un volume donné, chauffé au rouge-blanc pour que sa surface soit refroidie au point qu'une goutte d'eau puisse y rester à l'état liquide, on a calculé que si ce boulet avait la grosseur de la Terre, il lui faudrait plus d'un million d'années. Période de transition. Point 22. Au commencement de la période de transition, la croûte solide granitique n'avait encore que peu d'épaisseur et n'offrait qu'une assez faible résistance à l'effervescence des matières embrasées qu'elle recouvrait et comprimait. Il s'y produisait des boursouflements, des déchirures nombreuses par où s'épanchait la lave intérieure. Le sol ne présentait que des inégalités peu considérables. Les eaux, peu profondes, couvraient à peu près toute la surface du globe, à l'exception des parties soulevées formant des terrains bas fréquemment submergés. L'air s'était peu à peu purgé des matières les plus lourdes momentanément à l'état gazeux et qui, en se condensant par l'effet du refroidissement, étaient précipitées à la surface du sol, puis entraînées et dissoutes par les eaux. Quand on parle de refroidissement à cette époque, il faut entendre ce mot dans un sens relatif, c'est-à-dire par rapport à l'état primitif, car la température devait être encore brûlante. Les épaisses vapeurs aqueuses qui s'élevaient de toutes parts de l'immense surface liquide retombaient en pluie abondante et chaude et obscurcissaient l'air. Cependant, les rayons du soleil commençaient à paraître à travers cette atmosphère brumeuse. Une des dernières substances dont l'air a dû être purgé, parce qu'elle est naturellement à l'état gazeux, c'est l'acide carbonique qui en formait alors une des parties constituantes. Point 23. À cette époque, commencèrent à se former les couches de terrain de sédiments déposées par les eaux chargées de limons et de matières diverses propres à la vie organique. Alors paraissent les premiers êtres vivants du règne végétal et du règne animal. D'abord en petit nombre, on en trouve les traces de plus en plus fréquentes à mesure qu'on s'élève dans les couches de cette formation. Il est remarquable que la vie se manifeste aussitôt que les conditions lui sont propices, et que chaque espèce naît dès que se produisent les conditions propres à son existence. Point 24. Les premiers êtres organiques qui ont paru sur la Terre sont les végétaux de l'organisation la moins compliquée, désignés en botanique sous les noms de cryptogames, acotylédones, monocotylédones, c'est-à-dire les lichens, champignons, mousses, fougères et plantes herbacées. On n'y voit point encore d'arbres à tiges ligneuses, mais de ceux du genre palmier dont la tige spongieuse est analogue à celle des herbes. Les animaux de cette période, qui ont succédé aux premiers végétaux, sont exclusivement marins. Ce sont d'abord les polypiers, des rayonnés, des zoophytes, animaux dont l'organisation simple et pour ainsi dire rudimentaire se rapproche le plus des végétaux. Plus tard viennent des crustacés et des poissons dont les espèces n'existent plus aujourd'hui. Point 25. Sous l'empire de la chaleur et de l'humidité, et par suite de l'excès d'acide carbonique répandu dans l'air, gaz impropre à la respiration des animaux terrestres, mais nécessaire aux plantes, les terrains à découvert se couvrirent rapidement d'une végétation puissante, en même temps que les plantes aquatiques se multipliaient au sein des marécages. Des plantes du genre de celles qui, de nos jours, sont de simples herbes de quelques centimètres, atteignaient une hauteur et une grosseur prodigieuses. C'est ainsi qu'il y avait des forêts de fougères arborescentes de 8 à 10 mètres d'élévation et d'une grosseur proportionnée. Des lycopodes, pieds de loup, genre de mousse, de même taille. Des prêles, remarque, plantes marécageuses vulgairement appelées queue de cheval, fait de la remarque, de 4 à 5 mètres, qui en ont à peine un aujourd'hui, et une infinité d'espèces qui n'existent plus. Sur la fin de la période commencent à apparaître quelques arbres du genre conifère ou pin. Point 26. Par suite du déplacement des eaux, les terrains qui produisaient ces masses de végétaux furent à plusieurs reprises submergés, recouverts de nouveaux sédiments terreux, pendant que ceux qui étaient mis à sec se paraient à leur tour d'une semblable végétation. Il y eut ainsi plusieurs générations de végétaux alternativement anéantis et renouvelés. Il n'en fut pas de même des animaux qui, étant tous aquatiques, ne pouvaient souffrir de ces alternatives. Ces débris, accumulés pendant une longue série de siècles, formèrent des couches d'une grande épaisseur. Sous l'action de la chaleur, de l'humidité, de la pression exercée par les dépôts terreux postérieurs, et sans doute de divers agents chimiques, des gaz, des acides et des sels produits de la combinaison des éléments primitifs, ces matières végétales subirent une fermentation qui les convertit en houille ou charbon de terre. Les mines de houille sont donc le produit direct de la décomposition des amas de végétaux accumulés pendant la période de transition. C'est pour cela qu'on en trouve à peu près dans toutes les contrées. Remarque. La tourbe s'est formée de la même manière, par la décomposition d'amas de végétaux, dans des terrains marécageux. Mais avec cette différence qui étant beaucoup plus récente et sans doute dans d'autres conditions, elle n'a pas eu le temps de se carboniser. Fin de la remarque. Point 27. Les restes fossiles de la végétation puissante de cette époque, se trouvant aujourd'hui sous les glaces des terres polaires aussi bien que dans la zone torride, il en faut conclure que, puisque la végétation était uniforme, la température devait l'être également. Les pôles n'étaient donc pas couverts de glace, comme maintenant. C'est qu'alors la terre tirait sa chaleur d'elle-même, du feu central qui échauffait d'une manière égale toute la couche solide, encore peu épaisse. Cette chaleur était bien supérieure à celle que pouvaient donner les rayons solaires, affaiblis d'ailleurs par la densité de l'atmosphère. Plus tard seulement, lorsque la chaleur centrale ne put exercer sur la surface extérieure du globe qu'une action faible ou nulle, celle du soleil devint prépondérante et les régions polaires, qui ne recevaient que des rayons obliques donnant très peu de chaleur, se couvrirent de glace. On comprend qu'à l'époque dont nous parlons, et encore longtemps après, la glace était inconnue sur la Terre. Cette période a dû être très longue, à en juger par le nombre et l'épaisseur des couches houillères. Remarque. Dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, M. Liel a trouvé sur une épaisseur de houille de 400 mètres 68 niveaux différents, présentant les traces évidentes de plusieurs sols de forêt dont les troncs d'arbres étaient encore garnis de leurs racines. En ne supposant que 1000 ans pour la formation de chacun de ces niveaux, ce serait déjà 68 000 ans pour cette seule couche houillère. Fin de la remarque.
Activité programmée en Belgique pour le mois de décembre. Le vendredi 11 décembre 2009, à 20h, la Fédération Spirit de la province de Liège vous propose une conférence débat sur l'effet Kirlian. Celle-ci aura lieu au siège social de la Fédération, 43 rue Maguin à 4000 Liège. Pour informations complémentaires, merci de bien vouloir prendre contact en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou via courriel à l'adresse suivante fspl@spirit.be. Le dimanche 13 décembre 2009 à 13h, l'Union Spirit Belge vous invite au groupe de travail de l'Union qui aura lieu pour la seconde fois consécutif chez nos amis frères et sœurs du Centre d'études spirites Allan Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles. Ce groupe de travail de l'Union clôture l'année 2009 et débutera à 13h et se terminera vers 15h. Après la petite pause habituelle, nous nous retrouverons dès 15h30, toutes et tous autour de l'Évangile pour un moment de partage spirituel. À 16h, débutera la traditionnelle fraternisation de Noël chère à nos amis du CESAC, où nous aurons l'occasion de partager avec eux un repas convivial. Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de la responsable principale, notre sœur Annabella, en formant depuis la Belgique le 02 647 37 85 ou via courriel à l'adresse suivante cesacbruxelles@gmail.com. Le mouvement spirit francophone nous informe que le coffret DVD avec toutes les conférences du deuxième congrès francophone de médecine et spiritualité qui a eu lieu à Toulouse est maintenant disponible sur commande via le site spécialement réservé au congrès, à savoir à l'adresse suivante congrès.lmsf.org. Il vous suffira d'y suivre les instructions nécessaires à votre commande. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.